Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai le plaisir d'animer cette session qui s'intitule « Culturalisation et racisation dans le regard des enseignants sur les publics ». On va commencer par une intervention de Chloé Lemeur qui s'intitule « La culture de l'élève comme folklore ou menace, de réception des pratiques culturelles exotisées en contexte scolaire ». Ensuite, Marie Salin nous présentera Niras Niklas, la culture comme proxy dans l'appréhension de la difficulté scolaire en Polynésie française. Et enfin, Chloé Riban, perception ethno-raciale des parents d'élèves et enjeux de genre entre discrédit et volonté d'émancipation des mères, donc sur des questions de partenariat famille-école. Donc c'est la question donc de la culturalisation et de la racisation qui est au cœur de cette session. À la fin de ces trois interventions, donc il y aura un temps d'échange et de discussion, sachant que nous avons une heure, donc jusqu'à 15h15, pour échanger à partir de ces présentations. Merci à vous.
Alors bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai intitulé cette communication « La culture de l'élève comme folklore ou menace de réception des pratiques culturelles exotisées en contexte scolaire ». Alors en effet, le point de départ de ma réflexion est une série d'observations sur la réception de pratiques vestimentaires d'élèves par des agents de l'éducation nationale, donc aussi bien des personnels d'éducation, d'encadrement que d'administration, dans un collège public de région parisienne. Donc par réception, j'entends l'interprétation, l'évaluation et enfin le type de réponse institutionnelle, plus ou moins formalisée, mobilisée par les agents face à des situations leur paraissant anormales. Alors ces situations que je vais exposer dans un instant paraissaient anormales aux agents à plusieurs titres. D'abord parce qu'elles leur semblaient rompre directement avec le cadre réglementaire ou le cadre législatif, et souvent les deux en vigueur dans l'établissement, et notamment avec la loi du 15 mars 2004 dite sur le port des signes religieux à l'école. Et elles leur paraissaient souvent anormales à un second titre parce qu'elles venaient rompre avec les normes implicites ou explicites dominantes encadrant l'expression vestimentaire des élèves dans l'établissement. Plus précisément, dans toutes les situations observées et analysées ici, les choix vestimentaires ponctuellement réalisés par des élèves sont perçus par la majorité des agents comme renvoyant à des cultures autres que la culture dominante dans l'établissement, globalement la culture dominante de l'établissement étant liée à la classe moyenne blanche et française. La pratique vestimentaire est donc perçue comme étrange, au double titre de « en rupture avec les normes dominantes » et « d'origine étrangère venant d'ailleurs ». Alors par contre, malgré le processus d'exotisation, donc commun à tous les cas que je vais présenter, chaque situation a débouché sur un type de règlement différent, notamment en matière de sanctions sociales au sein de la communauté scolaire et en matière aussi de sanctions administratives. Alors dès lors, face à l'hétérogénéité des réponses collectives apportées, les questions que je me suis posées sont les suivantes. Quelle logique et quelle représentation collective explique l'assignation de certaines pratiques vestimentaires d'élèves à l'anormalité et à une identité culturelle exotisée? Et comment expliquer que malgré l'apparente similitude de ces processus d'exotisation, le règlement des situations de trouble ait été si différent dans chaque cas? Alors je précise que je m'appuie sur des observations qui sont issues de mon carnet de terrain, d'un premier carnet de terrain que j'ai tenu entre septembre 2013 et septembre 2015, et d'entretiens réalisés eux aussi entre septembre 2013 et août 2015, donc dans un établissement d'enseignement secondaire situé dans un quartier populaire de la banlieue nord de Paris et classé REP. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les agents observés, donc enseignants, cadres de direction, assistants d'éducation et CPE, ont formé une équipe éducative stable pendant un minimum de 5 ans, ce qui est relativement rare dans ce type d'établissement. Alors je vais commencer par exposer les deux situations, et puis après je procéderai à une analyse comparée. Alors, ces deux situations qui sont aussi intéressantes parce qu'elles interviennent uniquement à 2 mois d'intervalle. Donc l'une en juin 2015 et l'autre en septembre 2015, au tout début, dès la rentrée scolaire. Donc la première situation observée, c'est celle donc, qui met en jeu trois enseignants dans la salle des profs. Et, donc c'est une situation que j'ai pu observer et dont j'ai pu prendre des notes sur le moment en septembre 2015. La discussion tourne autour de la présence dans l'établissement d'un élève, un jeune garçon qui est issu de l'immigration récente indienne et qui s'est présenté le jour de la rentrée en portant un turban, donc sikh, et un poignard, le kirpan, à la ceinture. Après intervention des CPE et discussion avec l'élève, il porte dès le lendemain un bonnet dans la cour et dans les couloirs qui l'autre pour entrer en cours. Il a les cheveux nattés et relevés en chignon. Donc les réactions sont les suivantes, j'ai isolé les phrases les plus représentatives de l'échange. Une enseignante de français dit « Le pauvre, je trouve qu'on devrait le lui laisser porter, donc le turban. Bon, pas le couteau, hein, parce que ça pourrait poser quelques problèmes quand même. » Un enseignant de technologie dit en riant à plusieurs reprises pendant l'échange « Ah moi, j'ai cru que c'était une fille. Franchement, j'ai cru que c'était une fille, moi. » Et une enseignante d'anglais, répondant à celui qui vient de s'exprimer, dit aussi à plusieurs reprises « Ça fait du bien de voir un peu de diversité dans ce collège. » Alors, je précise tout de suite pour la dernière intervention que 2 mois auparavant, lors d'une réunion improvisée qui portait sur les tenues vestimentaires des élèves du collège, cette même enseignante s'était déclarée inquiète de la, je cite, « multiplication des longues jupes noires pour les filles dans le collège » et notamment de l'uniformisation, je cite, « que cela impliquait selon elle ». Alors ça, c'est pour la première situation. Donc je décris rapidement la deuxième et ensuite je passe à l'analyse. Donc dans la deuxième situation, c'est une situation de conflit ouvert et c'est la seule que j'ai pu observer en 2 ans. Conflit ouvert entre des enseignants, entre des personnels et une élève est lié à l'application de la loi du 15 mars 2004. Je cite un entretien, juillet 2015, que j'ai eu avec une enseignante d'histoire-géographie qui était témoin et actrice de la scène, que j'ai moi-même pu observer. Donc elle dit « C'était en toute fin d'année. Alors il faut peut-être préciser quel type d'élève c'était. C'était une élève dans le rejet de l'école. Et cette élève portait un bandeau. Eh bien, il y a une collègue d'histoire-géographie qui considérait cela comme une provocation, qui lui a dit de manière autoritaire « Enlève ça tout de suite ». Je resitue juste rapidement l'événement pour que vous puissiez le comprendre. Donc en effet, c'est une élève de 3e considérée comme difficile par l'intégralité du corps de la communauté éducative qui se présente donc vêtue d'une djellaba noire, je précise parce que la couleur aura son importance, et d'un foulard entourant l'avant de sa tête et laissant sa chevelure découverte à l'arrière. Donc elle a été à ce moment-là interpellée par une enseignante d'histoire-géographie qui lui avait ordonné d'enlever son foulard. Suite à cette première interpellation, il y a une discussion houleuse qui s'ensuit entre l'élève, 2 enseignantes, une CPE, un AED... Et l'élève est finalement renvoyée chez elle, donc dans les minutes qui suivent, pour se changer. Elle ne reviendra pas dans l'établissement pendant les 15 jours qui restent jusqu'à la fin de l'année scolaire. Au cours du mois précédent l'événement, elle avait fait l'objet de 2 convocations dans le bureau de la CPE parce qu'elle portait une djellaba, donc toujours la même, noire, et pas de bandeau. Plusieurs élèves avaient fait l'objet de la même convocation pour le même motif. Cela avait suscité un débat parmi les agents pour savoir si l'on pouvait considérer la djellaba comme un signe religieux ou non. Les différentes discussions entre agents avaient permis d'établir que la djellaba ne pouvait pas être considérée comme un signe religieux au regard de la loi du 15 mars. Cependant, elle était majoritairement perçue, je cite, comme un signe d'appartenance communautaire, donc juin 2015, et de ce fait considérée par les agents comme très peu adaptée à la situation scolaire. Donc je vais maintenant passer à l'analyse comparée des 2 situations pour mettre au jour leurs logiques respectives et interroger notamment quelles représentations et catégories d'analyse sont mobilisées par les agents dans leur action. Alors, vous aurez remarqué qu'il y a 2 résolutions, des 2 formes de résolution pratique vraiment différentes qui sont apportées à ces 2 situations. Dans le premier cas, le fait que l'élève puisse porter un bonnet dans les couloirs jusqu'à l'entrée de la salle de cours apparaît comme un compromis satisfaisant aux agents. En effet, le port de couvre-chef n'est pas autorisé dans l'enceinte de l'établissement, à part dans la cour de récréation. Il s'agit donc d'un aménagement exceptionnel qui apparaît même insuffisant aux yeux d'une des agents. Dans le second cas, les agents se placent au contraire dans une posture de refus de la recherche de compromis. Le maintien de l'élève dans l'espace scolaire dépend d'une condition, donc d'abord que le foulard soit retiré, et puis au fil de la conversation, que l'intégralité de la tenue soit changée. Et ça ne peut passer par une adaptation ponctuelle. Donc les 2 issues de ces situations ne sont pas à proprement parler antagonistes en fait. Dans les 2 cas, les élèves ne peuvent accéder à l'espace scolaire qu'en rendant leur tenue acceptable au regard des lois et aussi des normes qui sont en vigueur. En remplaçant, par exemple, pour le garçon, le turban, qui est perçu comme un élément de vestiaire étranger et un potentiel signe religieux, par un bonnet, qui lui est perçu comme un élément de vestiaire adapté aux normes vestimentaires locales. Cependant, les logiques de gestion mobilisées par les agents sont quand même très différentes, notamment sur un point qui est décisif. Dans le premier cas, l'équipe éducative tente, par la recherche d'une solution et l'adoption d'une posture de dialogue et d'empathie, d'atténuer la rupture entre, d'un côté, l'extérieur de l'école, l'en dehors, et de l'autre, l'espace scolaire, l'intérieur de l'école. Il s'agit de proposer à l'élève une solution impliquant une forme de continuité entre les 2 espaces. Au contraire, dans le second cas, l'élève est renvoyé à une rupture de continuité. Ce qui est possible à l'extérieur ne peut et ne doit pas l'être dans l'espace scolaire, même ponctuellement ou provisoirement. L'expression donc, que je note dans mon carnet de terrain en ce moment-là, c'est « il faut qu'elle rentre chez elle, se changer à la maison ». Donc c'est l'expression « à la maison » qui est utilisée. Elle est donc renvoyée à l'espace familial et intime. Alors, la première raison qui me semble expliquer cette différence de traitement est assez paradoxale au premier abord. C'est en fait la familiarité entre l'école et l'institution, entre l'institution scolaire et l'élève qui va entraîner plus d'intransigeance, enfin en tout cas une sanction plus importante et une analyse différenciée de la situation par rapport à la première. Donc en effet, de manière assez paradoxale, les agents connaissent mieux l'élève qui porte le foulard et la djellaba. Donc en effet, dans le premier cas, dans le cas du port du turban et du kirpan, ce port est attribué par les agents à une inadaptation ponctuelle à la situation, à une méconnaissance des normes et des lois liées à une situation de migration très récente. Ainsi, l'une des agents précédemment observées répète à plusieurs reprises « Le pauvre, il vient d'arriver, il est perdu ». Cette observation et l'explicitation implicite qu'elle apporte font consensus chez les agents. Un autre agent explique « Il n'a pas les codes, ça ne doit pas être facile ». Donc toujours juin 2015. Pour les agents, la transgression vestimentaire du jeune garçon s'explique par un éloignement symbolique et culturel de l'élève par rapport à l'institution scolaire française. Et pour les agents, ceci est la conséquence d'un éloignement géographique récent. Les agents adoptent alors une posture d'empathie et d'aide à l'acclimatation de l'élève à un nouvel environnement, acclimatation conçue comme un processus devant et pouvant prendre uniquement quelques mois. Dans le second cas, au contraire, l'élève est connu ou du moins identifiée par l'ensemble de la communauté éducative. Elle est associée à d'autres membres de sa famille sur laquelle la communauté éducative a de nombreuses informations, divorce des parents par exemple, le fait qu'elle soit issue de l'immigration tunisienne, sa famille est identifiée par les agents comme à la fois musulmane et juive, son frère est passé par l'établissement et de manière conflictuelle, et enfin certaines pratiques extérieures à l'établissement propres à l'élève sont connues, comme le fait qu'elle porte le voile à l'extérieur de l'école. Ok. Donc pour cet élève, l'hypothèse d'une méconnaissance des normes et des règles en vigueur dans l'établissement n'est pas retenue. Au contraire, la connaissance réelle ou supposée que l'institution scolaire a de l'élève est mobilisée pour expliquer sa tenue et de manière générale l'ensemble de ses actions. Alors je vais juste citer très rapidement ce que c'est assez important. Donc voilà les explications mobilisées par les acteurs. Donc sa professeure de français et professeur principal dit « Elle est folle cette gamine, je te jure qu'elle peut devenir hystérique. En même temps, quand tu vois la famille, tu comprends mieux. » Deuxième explication, professeur de mathématiques de la classe, toujours juin 2015. En fait, sa mère est juive et elle, donc l'élève, N, reçoit des insultes à cause de ça. Elle en a honte parce qu'elle se considère comme musulmane par son père. Je pense que ça explique beaucoup de choses. Donc, je vais essayer d'aller assez rapidement parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Mais là, ce qui me paraît intéressant, c'est que donc, le comportement de l'élève est analysé comme une transgression volontaire en fait, de l'ordre scolaire et social. Et c'est un désordre familial qui vient, pour les agents, expliquer cette transgression. Je vais retenir deux points principaux qui sont retenus par les agents qui pour eux, expliquent ce désordre. Tout d'abord, ce désordre qu'elle suscite est mis en relation avec sa double appartenance confessionnelle qui est perçue de manière racialisée, puisque l'élève est même qualifié de métisse, en fait. Toujours dans la même conversation avec le professeur de mathématiques, par l'agent. Cette double appartenance est présentée comme contradictoire et conflictuelle pour l'élève, et expliquerait à double titre son attitude. Parce qu'elle serait d'un côté pathogène, une source pathogène, et de l'autre, ça viendrait expliquer son affirmation identitaire musulmane et arabe excessive. Et de l'autre, donc ça je pourrais peut-être y revenir plus tard, ce qui est très intéressant ici aussi, c'est le motif misogyne, pathologique de l'hystérie, qui revient à de très nombreuses reprises pour expliquer le comportement de l'élève, et qui est à mettre en relation d'ailleurs avec le premier. C'est une sorte, les agents établissent une sorte de filiation féminine déréglé en fait, qui explique l'attitude provocatrice, donc transgressive, volontairement transgressive, de la jeune fille. Donc paradoxalement, la plus grande familiarité entre l'élève et l'institution scolaire active ici une logique de pathologisation, mobilisant des représentations sexistes et racialisées, et explique qu'on attribue un contenu subversif à ces pratiques vestimentaires. Donc il ne s'agit pas d'une inadaptation ponctuelle, mais d'une affirmation communautaire minoritaire menaçante pour les agents. Cela vient évidemment, donc il doit me rester 2 minutes je pense, ouais. Donc j'essaie d'aller beaucoup plus vite. L'hypothèse que j'avais formulée ici, c'est que, en fait, paradoxalement, le sentiment que les agents ont de l'éloignement entre le premier élève et la culture scolaire dominante va les amener à procéder à une forme de folklorisation des pratiques culturelles de l'élève, tandis que ça ne va pas être opératoire dans le deuxième cas. Et en fait, ce qui pose problème dans le second cas et qui m'a été explicité directement par des agents, notamment en entretien, c'est le fait que l'élève, perçu comme descendante de migrants, maintienne des pratiques vestimentaires qui, elles, sont perçues comme étrangères, illégitimes et menaçantes. Donc d'un côté, il y a une folklorisation qui s'opère et de l'autre, elle ne peut pas s'opérer, en fait, pour vous résumer la chose. Et donc, ce qui est intéressant, et j'essaie de condenser au maximum, c'est que dans le cas du jeune homme, on a une minoration de la valeur religieuse des éléments vestimentaires qui est opérée, et même une décontextualisation complète, en fait, de ce qu'il porte. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que l'ensemble, la coiffure, le poignard, le turban, sont perçus comme un ensemble original et étranger. La signification religieuse est enlevée parce qu'en fait, les agents opèrent un déplacement. Ils vont s'intéresser à la valeur transgressive sur le plan des normes de genre que eux attribuent à ce que fait le jeune homme, en fait, à sa manière notamment de se coiffer. Et ce contenu transgressif, il lui accorde une valeur positive, en fait, qui est extrêmement rare, c'est-à-dire que sur plusieurs années d'observation, c'est la seule fois où j'ai vu une rupture avec les normes de genre être valorisée. Et donc, en fait, là, je pense qu'il faudrait vraiment, et du coup, retrouver aussi la question de la jeune femme. Ouais, je conclue. Pour comprendre pourquoi c'est valorisé dans ce cas-là, il faudrait analyser, en fait, l'économie locale des rapports de genre et de race dans l'établissement, qui font que là, très ponctuellement, c'est utile aux agents de valoriser cette rupture avec les normes de genre, ce qui, la plupart du temps, n'est pas le cas. Donc, je terminerai juste en disant qu'on a d'un côté ce qu'on pourrait appeler une valorisation folklorisante, qui décontextualise la pratique de l'élève, qui en valorise la dimension esthétique, qui lui attribue un contenu de signification de manière complètement exogène, tandis que de l'autre, on va avoir la constitution d'une figure menaçante avec le cas de la jeune femme. Et en fait, ce que je voulais dire, et je conclurai là-dessus, c'est que je pense que c'est très important et intéressant de penser ensemble ces deux logiques d'exotisation qui semblent aboutir à des choses très différentes, en fait. Mais en vérité, elle dessine une sorte de cartographie de ce qui est tolérable et intolérable pour les agents à ce moment-là dans cet établissement. Et elles fonctionnent en vérité complètement ensemble, en fait, se renvoyant l'une à l'autre. Et je pense aussi, et donc je termine vraiment en 30 secondes, que tout ça est à mettre en relation avec la perception de la question de la durée chez les agents. C'est-à-dire que les agents de l'éducation nationale, dans ce cas-là, fonctionne avec l'idée que l'adaptation, en fait, de l'élève aux normes culturelles dominantes doit s'étendre dans une durée limitée, en fait. Et donc, finalement, ça nous amène à l'idée qu'il y a une sorte d'exigence d'assimilation, en fait, qui se formule à l'égard des élèves, mais qui ne se formule pas explicitement, mais qui peut justement se voir dans ce genre de comparaison. C'est que l'exigence d'assimilation, du fait de l'idéologie progressiste qui est beaucoup mise en avant par ces agents, elle ne va pas se formuler directement. Mais j'ai pu l'observer justement dans ce type de cas. Voilà.
Merci beaucoup. Donc on va écouter donc Marie Salin.
Alors, j'ai préparé, bonjour, j'ai préparé, j'ai préparé un petit PowerPoint avec simplement les... Non, je vais le voir apparaître là-haut, merci, parce que je regardais là. J'ai simplement préparé un petit PowerPoint avec les références, parce que je suppose pas beaucoup de connivence avec vous sur les auteurs qui travaillent dans le Pacifique. Et moi, quand j'écoute une communication et qu'on me donne plein de noms, ça m'énerve de les noter phonétiquement et de les rechercher derrière. Donc j'ai préparé simplement quelques références que je vais mobiliser. Je vais commencer par vous donner quelques éléments de contexte sur la Polynésie française. Donc en guise de préambule, je vais essayer de situer les termes dans lesquels la racialisation de la société polynésienne peut être pensée, et elle peut être pensée en lien à un contexte post-colonial particulier, puisque désormais... une collectivité d'outre-mer, la Polynésie française a été successivement un protectorat et une colonie, à partir de 1880 pour le statut de colonie. Alors on a un cas empiriquement très intéressant, puisqu'on a des citoyens indigènes, c'est-à-dire qu'on a des sujets du roi Pomaré au moment de la transformation du protectorat en colonies qui vont obtenir le bénéfice de la citoyenneté française, mais tous ceux dont les territoires dans les îles vont être conquis par les Français par la suite, après 1880, eux vont rester sujets indigènes. Donc à ce
sur ce thème, je vous recommande les travaux d'Anne-Christine Trémont, parce qu'on a une sorte d'exception dans cette exception du droit colonial qui sépare étroitement les sujets des indigènes. Tout cela cesse avec la fin des colonies, en tout cas avec la Quatrième République, mais ça n'est que très lentement qu'on va faire disparaître une différence entre des citoyens d'origine métropolitaine et des citoyens d'origine océanienne. Et il faut attendre bien 10 ans après la fin officielle de cette séparation pour que la catégorie en tant que telle disparaisse des recensements. Alors l'origine ethnique supposée aujourd'hui est un marqueur essentiel de l'identité. Moi, par exemple, je suis Pop A, et Pop A, si vous ouvrez le dictionnaire de la langue tahitienne de l'Académie, ça veut dire étranger de race blanche. Donc vous avez des Tintos, des Chinois, des Sikhs, des Noirs, vous avez des gens qui se disent purs polynésiens, et quand ils font ça, ils montrent leur peau et la couleur de leur peau, ça veut dire qu'ils ne sont pas métissés, contrairement aux demi, qui sont issus donc des mariages interraciaux du 19e siècle et qui ont très rapidement conquis le pouvoir en Polynésie française. Je vous renvoie aux travaux de Laura Schultz que j'ai aperçue hier. Laura, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, qui a travaillé de manière intersectionnelle, on en parlait hier, de manière très intéressante sur ces questions. Alors l'école... En situation coloniale, il y avait deux types d'écoles. Il y avait des écoles qui ressemblaient assez fortement aux écoles de métropole. Sous la Troisième République, elles étaient réservées aux enfants des fonctionnaires, donc des enfants blancs, et aux enfants des demi, et elles étaient plutôt situées en ville. Et il y avait un deuxième type d'école qui ne s'appelait pas école indigène, puisqu'à Tahiti en particulier, les habitants des districts n'étaient donc pas des indigènes, mais des citoyens. On parlait d'école de district. Là, par contre, on avait un enseignement assez rudimentaire qui se faisait très majoritairement en langue tahitienne. Tout ça va changer. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec, on va dire, une prise en main, pour aller vite, une prise en main des affaires scolaires par le ministère de l'Éducation nationale, qui remplace le ministère de la France d'Outre-mer. Et là, on va avoir une sorte de mise aux normes, de mise en conformité du système éducatif de la Polynésie française, qui va se mettre à ressembler de plus en plus au système éducatif de la France métropolitaine, avec une accélération de ce processus à partir des années 60 et à partir du début des essais nucléaires français, puisque vous savez qu'il va y avoir des essais dans ce territoire entre 1966 et 1995, qui change radicalement la vie des gens. Pour aller vite, je ne parle pas de l'impact environnemental, mais je parle du fait, par exemple, qu'à la fin des années 60, c'est 80% des actifs salariés qui travaillent de près ou de loin pour le nucléaire en Polynésie française. Et ça va impliquer une maîtrise de la langue française et une possibilité de passer les mêmes diplômes qu'en métropole. Alors aujourd'hui, on a un système qui est comparable dans ses structures, différent dans ses performances. La dépense éducative représente 12% du PIB contre 5% ici, et elle est assurée à 90% par des transferts de l'État français. Donc si je vous dis qu'en théorie et selon les principes des lois d'autonomie, la Polynésie française est compétente pour définir sa propre politique éducative, à partir du moment où l'État français finance 90% de la dépense, vous ne vous étonnerez pas du fait qu'elle a fait le choix, comme on le dit officiellement, du maintien du référent national, aussi bien dans les programmes que dans les diplômes. Alors la scolarité y est obligatoire de 5 à 16 ans. Le décrochage précoce, c'est-à-dire dès la cinquième, touche 4 fois plus d'élèves qu'en métropole. Il y a environ 40% des jeunes qui sortent du système éducatif sans diplôme, sans qualification, ce qui correspond à peu près au pourcentage de ceux qui sont repérés comme étant en difficulté à l'écrit au moment de la journée défense citoyenneté, environ 40% des jeunes polynésiens. Et vous savez qu'ici, c'est à approximativement 9% des jeunes. Elle a été qualifiée de vaste zone d'éducation prioritaire par l'inspection générale dans un rapport de 2007. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les économistes de l'AFD qui ont fait une enquête sur la pauvreté nous disent les choses suivantes. D'une part, quand on regarde l'indice de Gini, la Polynésie française, c'est le Brésil, c'est pas du tout un pays comme la France. Donc il y a des écarts de revenus absolument extraordinaires. Et ils nous disent, et je les cite, l'impact le plus significatif, aussi bien sur les revenus que sur l'incidence de la pauvreté, est sans conteste celui du niveau d'éducation. Ce résultat n'est pas différent de celui de la plupart des études empiriques dans les pays en développement. Ce qui frappe, dans le cas de la Polynésie française, c'est l'ampleur de son impact. Fin de citation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les inégalités scolaires sont le facteur le plus discriminant face à la pauvreté, mais elles sont ignorées comme telles par ceux qui en sont les principales victimes, c'est-à-dire les plus pauvres, qui sont aussi les moins bien dotés en capital scolaire et qui paraissent être ceux qui ont de plus de mal à faire la relation entre le capital scolaire et la possibilité d'accéder à l'emploi ou en tout cas de sortir de la pauvreté. Alors, si on s'intéresse à l'étiologie de la difficulté scolaire aujourd'hui, là, mes sources, ça va être... C'est pour ça que je ne vais pas vous parler, moi, du regard des enseignants, mais plutôt du regard de l'institution. Je vais me servir des rapports de l'inspection générale, d'entretiens que j'ai faits avec des inspecteurs généraux, des rapports du Conseil économique et social local, des rapports de la Chambre territoriale des comptes, etc. On a typiquement trois types de causes qui sont là pour expliquer cette difficulté scolaire massive et extrêmement préoccupante. On a premièrement la convocation d'un déterminisme géographique, c'est ce qu'ils appellent les contraintes du milieu. Effectivement, c'est 118 îles sur un territoire maritime qui est aussi vaste que l'Europe. Il y a la même distance entre Tahiti et les Marquises qu'entre Paris et Moscou. Donc on a un éparpillement qui rend la scolarité difficile, en particulier à partir du secondaire, quand il faut se déplacer pour aller vers les centres où se trouvent les collèges. On a deuxièmement l'invocation d'un retard historique de la Polynésie, dont le système éducatif est toujours présenté comme étant en quelque sorte immature par rapport à l'étalon métropolitain, dans une sorte de perspective évolutionniste. Et puis on a troisièmement l'incrimination de déterminants culturels, comme un ensemble de traits de mentalité spécifiquement polynésiens qui entraînent des discontinuités et compliquent l'assimilation du message scolaire. Et là, je vais vous citer, c'est du verbatim, un rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale, pour donc expliquer les différences de performance du système éducatif métropolitain par rapport au système éducatif, polynésien par rapport au métropolitain. On nous dit « la conscience encore faible des enjeux d'un parcours scolaire d'élève réussi explique une forme de désinvolture à l'égard de l'obligation scolaire ». On nous dit « le rapport à l'école dans la société polynésienne est resté marqué jusqu'à une date récente par des valeurs d'utilité immédiate en liaison avec les besoins de l'environnement ». Il explique encore aujourd'hui l'importance des trajets courts à visée professionnelle, aisément exploitables dès la fin de la scolarité obligatoire, et le manque souvent signalé d'ambition scolaire. Et on ajoute le poids de l'oralité. Le passage à l'écrit s'avère donc ici plus difficile qu'ailleurs et conduit à une distance progressive vis-à-vis des impératifs de l'école. Pourquoi faire des efforts puisque la ressource naturelle maritime est généreuse et qu'il n'est nul besoin de prolonger ses études au-delà d'un viatique élémentaire ? Fin de citation. On a une vision assez rousseauiste là, de l'inspection générale. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que ça a été écrit à l'issue d'une mission d'une semaine ou 10 jours, c'est-à-dire si on compte la fatigue du décalage horaire, etc., à peu près 5 jours utiles. Là, les rapports de l'inspection générale, c'est de la ventriloquie. Ils ne font que répéter des choses qu'on leur a dit sur place. Et ces choses-là, on ne peut pas exclure, on peut même être sûr du contraire, ce ne sont pas des représentants de l'État qui leur ont dit, mais des Polynésiens. Alors, ce qui est frappant, si vous voulez, quand on s'intéresse à cette littérature institutionnelle, c'est que l'origine familiale, sociale, ethnique des élèves n'est plus du tout mobilisée aujourd'hui. Et on a une analyse colorblind et classblind. Alors que dans des années 1970 aux années 1990, notamment à la faveur de la possibilité de faire des tris incorporant l'autodéclaration de l'origine ethnique, un certain nombre de travaux avaient pu être faits. C'est le cas des travaux de cet économiste Bernard Poirine qui avait mis en relation l'origine ethnique telle que déclarée et la performance scolaire. Et il notait, par exemple, que à la fin de la scolarité obligatoire, près de la moitié des Polynésiens sans métissage ont abandonné leur scolarité, ce qui n'est le cas que de 10% des Asiatiques et des Européens. Il notait encore, un dernier chiffre, que le pourcentage de chefs de famille ayant niveau supérieur au baccalauréat est respectivement de 49% chez les Européens contre 4% chez les Polynésiens. Alors s'il plaidait en faveur d'une prise en compte de l'origine ethnique, c'est qu'il se battait contre un psychologue, Bertrand Troadec, qui lui avançait une explication à la même époque très culturaliste des écarts de performance et nous expliquait que si l'enfant polynésien réussit mal, c'est parce qu'il pense autrement. On aurait une cognition polynésienne qui n'est pas adaptée à l'école française. Il nous dit que les enfants gardent dans leur sensibilité, dans leur appréhension du monde, dans leurs opérations mentales, des caractéristiques originales qui les placent, sans même qu'ils le veuillent, dans une sorte de déviance à l'égard des apprentissages scolaires. Alors et aujourd'hui, c'est ma conclusion. 30 ans plus tard, on a une sorte de victoire par chaos de l'explication culturaliste. Les analyses déficitaires sont prédominantes, l'incrimination du milieu l'emporte sur toute possibilité de considération que les problèmes viendraient de l'école elle-même. On a une double négation, D'une part, du poids de l'origine socio-économique, elle-même étroitement corrélée à l'origine ethnique, et la négation aussi du fait que qu'il pourrait exister une possibilité d'une école discriminante. Ce qui rend possible cette victoire écrasante du culturalisme comme explication de la performance scolaire, c'est d'une part la disparition de la variable ethnique au recensement de 1996, donc depuis 1996, on ne peut plus travailler comme on a pu le faire pendant longtemps. Et d'autre part, on a une sorte d'hypostase de la culture. Alors par hypostase, j'entends la tendance à poser dans l'être ce qui n'est au départ qu'une simple manière commode et fictionnelle de parler. Et là, l'héritage colonial, et notamment la naturalisation de la culture, si vous voulez, fonctionne à plein. Et donc, ça laisse le champ à une analyse culturaliste simpliste, aussi bien du côté des dominants que des dominés, aussi bien du côté de l'ex-colonisateur que des ex-colonisés, dans une grande connivence finalement, ou plutôt, pour parler comme Bourdieu, dans un malentendu fonctionnel, sauf qu'il fonctionne très mal du coup en matière scolaire. Alors raisonner en termes de culture, bien évidemment, c'est en renvoyant à des réalités invariables, une âme, une cognition polynésienne, c'est finalement, ça fonctionne comme un écran de fumée et ça nous fait oublier la dimension fondamentalement politique des rapports sociaux. Cette dimension politique, elle est niée au profit de l'affirmation d'une altérité fondamentale ou ontologique, alors qu'on oublie que cette altérité et les éléments culturels qui la composent sont aussi le produit des rapports politiques, en l'occurrence le produit d'une expérience coloniale, ce qu'a très justement démontré Balandier dans son texte sur la situation coloniale de 1951. Quand on suppose que les acteurs n'agissent que parce que c'est leur coutume ou que c'est dans leur culture, le raisonnement est non seulement tautologique, expliquer ce que font les individus par leur appartenance ou telle ou telle culture, c'est expliquer la manière dont ils agissent par la manière dont ils agissent, mais surtout c'est entretenir une forme d'illusion altéritaire en quelque sorte. Et cette illusion nous fait oublier que les différences de comportement observables ne sont pas tant des différences de mentalité, ou plutôt, si on fait ça, on fait abstraction des contextes d'énonciation et d'action, en amont on fait abstraction de la situation. Il est en un sens logique dans un processus de décolonisation qui n'est pas en train de se passer, parce que la Polynésie française, c'est pas le Vietnam, c'est pas l'Algérie, c'est pas Madagascar, c'est pas le Sénégal. La particularité, c'est une colonie qui n'a pas encore été décolonisée. Donc à partir de là, il est assez logique que l'État entende répondre à des revendications de décolonisation en disant « on va prendre en compte votre culture ». Et il est assez logique que de l'autre côté, des gens qui sont dans une grande impuissance militaire pour commencer, mais aussi une grande impuissance politique, se saisissent de cet argument. Donc en fait, « it takes two to tango », comme disent les Anglais, là, on est deux à mettre en avant la culture, ce qui permet de ne pas parler finalement de ce qui fâche. Donc, j'ajouterai in fine, parce qu'il me reste une minute, que les thèmes jugés légitimes pour la recherche ou les thèmes jugés légitimes pour les autorités éducatives arrivent en Polynésie française, non pas en 24 heures d'avion comme nous, mais en quelques années. Il y a quelques années de retard, mais il y a des vagues. Donc là, ils en sont au décrochage scolaire, hein, qui est arrivé il y a un an, deux ans. C'est leur préoccupation. On peut voir arriver une préoccupation quant aux discriminations. C'est possible, mais pour l'instant, disons que c'est pas du tout à l'ordre du jour, parce qu'on toucherait là quelque chose qui doit nécessairement rester de l'ordre de l'impensé à ce stade. Donc, j'essaye pour ma part d'y aller doucement. J'avais dit à Fabrice, quand on avait discuté de ma présence ici, qui me sortait de ma zone de confort, parce que moi, contrairement à vous tous ici, je ne suis pas du tout une spécialiste des discriminations. Ça ne veut pas dire que ça ne m'intéresserait pas d'y travailler, mais disons que c'est très difficile. Et je termine avec une doctorante qui est CPE sur l'île de Moorea. On a écrit un livre, « L'école ambiguë, histoire de famille à Tahiti », qui est sur la table là-bas. On est allé à la rencontre de parents de collégiens décrocheurs et on leur a donné la parole et on leur a demandé comment ils se sentaient traités par l'institution en tant que telle. Donc je crois pouvoir dire à l'issue de ce travail que le sentiment de discrimination, en tout cas, il existe, mais on a voulu publier localement parce qu'on se disait que c'était mieux pour la diffusion et on n'y est pas parvenu. Les relations sont, entre la recherche et l'institution en Polynésie sont compliquées. À la rigueur, il vaut mieux, ça paraît paradoxal, traiter avec l'État que de traiter avec les autorités pédagogiques locales. Mais il faudra bien pourtant investir ce terrain, qui est un très beau terrain pour l'étude du racisme et des discriminations à l'école. Merci.
On va écouter Chloé Riban maintenant.
Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'organisation de ce colloque. J'avoue que je suis un peu impressionnée de parler devant vous, donc excusez-moi si je lis un petit peu mon texte. Voilà. C'est une communication qui est issue de mon travail de thèse qui porte sur les relations entre l'école et les familles, et je travaille plus particulièrement auprès de familles populaires qui ont un parcours migratoire, c'est-à-dire qu'il y a au moins un des parents qui est arrivé d'un pays étranger, et j'ai un intérêt plus particulier sur la question du genre donc dans ces configurations-là. Donc cette communication, c'est une exploration des premiers éléments d'analyse et d'hypothèses qui sont en train d'émerger à l'issue du travail de terrain. Mais je vais vous présenter uniquement un volet du travail, je vais revenir là-dessus, qui est celui que j'ai mené auprès des professionnels. Donc très rapidement, juste pour vous donner le contexte de l'enquête et puis d'où je parle. Donc c'est un travail que j'ai mené qui est ethnographique, avec des entretiens dans un quartier qui est territoire prioritaire d'une ville moyenne de province. Donc juste quelques indicateurs, c'est un peu impressionniste, mais pour caractériser le quartier. Donc c'est un quartier où 22% des actifs sont au chômage, 21% des habitants et des habitantes sont étrangers. 43% des personnes ont un niveau qui est inférieur au CAP et BEP, et 39% des familles qui sont allocataires de la CAF sont des familles monoparentales. Donc ça, c'est pour des éléments un petit peu statistiques. Alors, concernant l'enquête, j'ai été présente en fait sur 3 écoles primaires, 2 publiques et 1 école privée, et 2 collèges REP et REP+, donc c'est les écoles qui appartiennent au réseau de ces collèges-là. Donc c'est des établissements qui sont fréquentés majoritairement par des familles racialisées, alors que les équipes éducatives, très majoritairement, ne le sont pas. Donc c'est un travail qui a été assez long, la familiarisation avec à la fois les équipes éducatives et les parents a duré plusieurs mois, avec une présence très régulière sur tous les temps d'accueil des parents en fait dans les écoles. Et puis ensuite tout un travail d'entretien avec à la fois des mères de famille et des enseignants. Donc j'ai rencontré une quarantaine de parents, donc essentiellement des femmes. Là je vais mobiliser donc mon corpus d'entretien avec des professionnels. Donc c'est 35 entretiens individuels. L'analyse plus précise a porté uniquement sur 21 entretiens parce que j'ai pas encore pu tout retranscrire. Sachant que dans la population enquêtés chez les professionnels, il y a seulement 5 enquêtés qui ont une origine étrangère, dont 3 extra-européennes, mais en fait ce ne sont pas des enseignants, donc c'est médiateurs de quartier, voilà. Alors là je vais aller vraiment très très vite, c'était un petit élément théorique, simplement pour vous présenter la problématique de ma communication. Donc c'est ce que je voudrais vous montrer, c'est comment la perception des enseignants, elle semble construite en fait sur des fondements ethno-raciaux, et elle se tisse avec des représentations qui sont liées au genre. Donc je vais à la fois travailler à partir des configurations des liasses, c'est-à-dire l'intérêt d'analyser à la fois ce qui se passe du côté des parents et du côté des enseignants. Et j'essaye aussi de mobiliser le paradigme intersectionnel, donc je vais y revenir au cours de la communication. Donc le premier point, c'est qu'il y a, il me semble, une altérisation des parents qui s'effectue sur des fondements ethno-raciaux. Alors, il y a on peut décomposer ça de plusieurs façons. D'une part, il y a une valorisation des cultures d'origine, et d'autre part, des parents qui du coup se construisent comme étant un peu représentants d'une figure de l'autre essentialisée. Alors, amené à évoquer la manière dont ils perçoivent les familles, très fréquemment, les enseignants évoquent les spécificités culturelles et notamment la richesse de la diversité culturelle. Ce qui, à mon avis, constitue en fait une forme de... Enfin, fait écho à la grâce du minoritaire qui est décrite par Colette Guillaumin, parce qu'ils évoquent la richesse d'avoir plusieurs langues, le fait que ce soit un bagage, je cite, supplémentaire. Voilà. Donc, forte de ce constat, les équipes éducatives mettent en place des projets pour faire venir les parents à l'école, qui repose sur une base ethno-raciale très souvent, et en fait qui concerne essentiellement les mères de famille. Parce qu'en effet, le référentiel de l'éducation prioritaire, donc de 2013, encourage les projets donc, qui visent à faire venir les parents, mais il n'y a pas forcément d'indication sur comment faire. Et donc très souvent, les projets qui se mettent en place visent à valoriser les mères sur des compétences qu'elles auraient spontanément. Donc en fait, ça renvoie à des dimensions ethnoculturelles. Donc par exemple, notamment la cuisine, qui est perçue comme une manière de faciliter les échanges parce qu'elle ne nécessite pas de prérequis linguistiques. Et puis aussi, en particulier, c'est très présent dans l'école privée que j'ai enquêtée, il y a tout un projet autour de l'introduction des langues maternelles à l'école, dans les classes, où les parents, enfin les mamans du coup, viennent lire en fait des histoires. Donc il y a ici, il me semble, une confirmation, en tout cas un exemple de ce que démontre Eugène Sénac, qui parle d'une égalité sous condition de performance de la différence, c'est-à-dire qu'il y a une transformation des facteurs d'exclusion en facteurs d'inclusion, en tout cas sur ce point précis là. Et donc se dessine finalement la figure de parent qui incarne l'altérité. À travers deux points centraux, il y a en fait une association entre la difficulté sociale, il me semble, et l'appartenance ethno-raciale des parents, et puis également un discours sur le manque d'intégration supposée des familles. Alors, s'agissant de l'association entre la difficulté sociale et l'appartenance ethno-raciale, les enquêtés évoquent très souvent le fait que les parents de leurs élèves n'ont pas les codes de l'école et plus généralement de la société française. Et il y a un exemple, c'est au niveau des organisations familiales, il y a des spécificités qui semblent se dessiner en opposition avec ce qui est pratiqué visiblement dans les milieux dont sont issus les enseignants. C'est notamment le cas sur la prise en charge des plus jeunes par les aînés de la fratrie et l'autonomisation des enfants qui marque une frontière entre un « eux » et un « nous ». Donc là, sur le diapo, c'est moi qui souligne vraiment vraiment la précision avec laquelle il y a bien ce « eux » et ce « nous » qui ressort dans les discours. Donc la culture qui est invoqué ici par les enseignants, peut s'entendre comme le résultat de facteurs sociaux, notamment une faible dotation scolaire, c'est-à-dire qui explique que les parents soient peu présents ou considérés comme un peu déficitaires parce qu'ils ne maîtrisent pas les codes. Donc en fait, il y a une désignation de mode d'être populaire qui semble reposer chez les enseignants sur une connaissance qui est certes un peu approximative, mais des travaux de sociologie qui existent déjà sur le rapport des familles populaires avec l'école. Mais il y a donc une attitude compréhensive, quoique un peu réprobatrice à l'égard de la manière dont se comportent les familles par rapport à l'école, qui appelle d'ailleurs des formes de soutien à la parentalité, comme on le voit dans ce verbatim-là. Mais en même temps, en fait, il y a une proximité et un glissement entre le discours sur la culture populaire et les difficultés sociales et des dimensions ethno-raciales. C'est-à-dire que les caractéristiques sociales des familles qui expliquent leur mode de vie et leur rapport à l'école sont en filigrane très fortement associées à l'origine étrangère. Donc si les enseignants identifient bien les difficultés économiques, sociales et langagières des parents comme des facteurs qui expliquent leurs difficultés, ils associent en même temps ces déterminants avec une origine ethno-raciale, comme on le voit dans l'extrait où le qualificatif défavorisé, elle alterne l'enseignante entre des explications d'appartenance de classe et plus ethnique. Et donc la différence sociale, se teinte de racialisation et notamment l'absentéisme des élèves est fréquemment corrélé avec la période du Ramadan ou la fin de l'année scolaire et, je cite, les retours au bled. La religion musulmane est explicitement nommée comme une frontière. Notamment, par exemple, lorsqu'il s'agit des voyages scolaires, il y a une assistante sociale scolaire qui dit, je cite, qu'il faut lutter contre certaines cultures, notamment pour les familles musulmanes pratiquantes, afin qu'ils laissent partir leurs enfants. Et puis, c'est également le cas sur la question fille-garçon, où il y a visiblement un eux-nous récurrent également dans le discours des professionnels. Alors, Les représentations donc des professionnels seulement fonctionnent sur l'image de parents qui semble être particulièrement différent. Donc du coup, je vais aller plus vite. Donc il y a tout un discours sur l'intégration des parents qui est évalué à travers plusieurs critères comme l'habillement par exemple. Le fait de fréquenter ou non les structures du quartier comme la cantine, où en fait on voit que le fait de ne pas y aller est visiblement un marqueur de non-intégration. Et il y a un constat finalement d'une forme de communautarisme des familles, donc là-dessus je vais aller vite, mais qui serait caractérisée et du coup qui en fait inscrit davantage, enfin qui cristallise le fait que les parents sont à mon sens la figure de l'autre dans ces quartiers-là. Alors, donc du coup je vais vite, avec une biologisation de la perception, je reviens pas là-dessus, mais l'idée de nature, en fait, de la nature différente des parents revient avec des verbatims vraiment là-dessus. J'en dis juste un, une assistante sociale scolaire qui dit qu'il faut qu'elle tient compte de la nature des parents et qu'elle part avec un constat de départ qui est différent quand elle travaille avec eux. Donc, pour aller au point central, en fait, il y a l'altérisation des familles qui se mêle à des enjeux de genre. Et c'est là qu'à mon avis, il y a l'importance de mobiliser le paradigme intersectionnel. Donc, je vais essayer d'expliquer rapidement pourquoi. En fait, il y a deux points qui se mêlent. Il y a d'une part des mères qui semblent omniprésentes mais laxistes et des pères qui sont mobilisés donc quand le cadre fait défaut. Et puis ensuite, une vision assez déficitaire des femmes d'origine étrangère qui génère une volonté de normalisation de ces parents-là, enfin de ces femmes-là. Alors, sur les mères omniprésentes et complaisantes, en fait, pour aller assez rapidement, globalement, les enseignants considèrent que le fait que les femmes soient omniprésentes dans l'éducation des enfants, c'est lié à l'appartenance ethno-raciale. Et donc, ça ressort dans les discours. Et les mères sont de toute façon, de facto, très mobilisées en première intention par l'institution scolaire pour les affaires courantes et quotidiennes. Donc ça, c'est y a une forme de responsabilisation de ces femmes sur ces points-là. Et en même temps, il y a aussi une vision des mères. Alors, il y a un discours sur le retrait des parents qui serait un peu déficitaire, et en même temps, une vision de certaines mères qui auraient tendance à choyer et à surprotéger leurs enfants, et notamment à les protéger de leur père. Et donc, cette caractéristique des femmes est mise en lien avec leur destin, qui est compris comme une forme de soumission à un ordre du genre rétrograde, ancré dans des dimensions ethno-raciales et religieuses. Et ça semble expliquer dans le discours des professionnels la place centrale de l'enfant pour les mères et leur volonté de ne pas le contrarier. Alors, ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que les pères, en fait, incarnent l'autorité et sont mobilisés dans ce cadre-là. Donc, il y a d'une part une difficulté visiblement à rencontrer les pères, mais qui intervient quand les femmes sont considérées comme incompétentes pour prendre en charge la difficulté qui est soulevée. Et finalement, les interventions des professionnels tendent à renforcer cet état de fait, parce que soit ils sollicitent les pères explicitement sur les moments critiques pour, je cite, les remettre dans la boucle ou les remettre face à leurs responsabilités, soit c'est pour des raisons culturelles qui font appel aux pères. Et donc finalement, les pères sont mobilisés pour arranger les choses. Et il y a, il me semble, dans cette manière de faire, une forme de discrédit de la compétence, enfin du suivi maternel, qui est beaucoup plus régulier, mais qui semble sujet à caution, parce que les femmes seraient dupes de leurs enfants, alors que les pères donc sont mobilisés pour les moments importants. Donc il y a une vision déficitaire des femmes d'origine étrangère et en particulier musulmane qui semble sous-tendre en fait des projets de normalisation des parents. Donc il y a une vision des femmes qui subiraient une forme d'enfermement domestique et qui du coup les rendraient finalement, qui les déposséderaient de leur puissance d'agir à l'égard de leurs enfants au profit du père et des beaux-parents. Et donc elles font pas figure d'autorité compétente, je cite. Elles passent pour des interlocutrices peu crédibles. Donc le genre et l'appartenance ethno-raciale se conjuguent pour dessiner la figure de femme dominée, et ça pousse les enseignants à les contourner parfois, et donc ça contribue à la construction de leur impuissance, il me semble, en tout cas en renforçant la répartition traditionnelle des rôles. Et il transparaît à travers certains discours l'idée culpabilisante pour les femmes, je cite Sandrine Garcia, que la famille est pathogène parce que les mères ne sont jamais à la hauteur de leurs tâches, ou à travers un puéreux centrisme maternel. Et donc ce constat, en fait, de la domination des femmes racialisées par les membres de leur famille s'accompagne d'une vision donc dépréciée de leurs compétences parentales, C'est-à-dire que, en particulier, je vais prendre un exemple, il y a tout un discours sur le fait que les mères ne sauraient pas dire non à leurs enfants, et elles sont ciblées par des projets qui, a priori, à l'origine, n'étaient pas dédiés à ça, mais je pense à la classe ouverte en activité, donc c'est ce dont parle là le verbatim que je projette. La classe ouverte en activité, très très vite, c'est le fait de faire venir des parents à l'école sur un temps de classe habituel pour qu'ils voient, en fait, pour qu'ils s'imprègnent de qu'est-ce qui se passe dans une classe, et où en fait, là, on nous explique que on fait venir les parents, donc c'est effectivement pour qu'ils s'imprègnent, mais c'est aussi pour qu'ils puissent adopter et comprendre des normes et des postures qui sont jugées conformes par l'institution scolaire. Comme elle le dit ici, le fait de ne pas devoir cadrer des gamins qui sont, je cite, donc complètement azimutés. Voilà, donc pour conclure très rapidement, l'école, en fait, il y a en fait une forme, à mon avis, d'instrumentalisation de certains, de la valorisation des cultures d'origine, en particulier dans l'école privée enquêtée, où on dit qu'on part de la réalité des mères et de ce qu'elles sont et de ce qu'elles auraient à apporter visiblement spontanément, pour finalement les faire venir à l'école et transmettre un discours donc de normalisation des pratiques éducatives à la maison. Et en même temps, il y a aussi une vocation émancipatrice dans certains de ces projets, parce que le fait de faire venir les mères à l'école permet de les encourager à aller vers des cours de français langue étrangère, de les mettre en lien entre elles, etc. Donc il y a un peu ces deux dimensions-là qui se conjuguent. Et donc, pour conclure, il me semble qu'on observe la volonté de diffusion d'un modèle familial qui implique les deux parents, dans lequel les femmes s'émancipent vis-à-vis de la sphère familiale et les hommes assument une part du travail éducatif. Cette normalisation attendue façonne l'attitude des professionnels à l'égard des parents, même si leurs attitudes tendent parfois à renforcer les stéréotypes qui sont à l'origine des inégalités de genre, puisque les mères se trouvent bien souvent discréditées, tout en étant ciblées la plupart du temps par les projets qui visent à rapprocher les parents et l'école. Donc tous les professionnels rencontrés ne sont pas forcément porteurs de ce type de discours, mais dans l'analyse des entretiens, il se dessine le fait que face aux difficultés que posent certains enfants en classe, les enseignants semblent assez démunis et donc adoptent cette grille de lecture, mobilisant des facteurs ethno-raciaux pour expliquer des phénomènes qu'ils ne peuvent pas forcément prendre en charge. Voilà. Merci pour votre attention.
Merci à vous. Donc c'est une session avec des présentations qui répondent tout à fait à la table ronde de la fin de la matinée, puisque là, ces présentations proposent des enquêtes empiriques sur les discours des agents de l'institution, donc que ce soit des enseignants ou d'autres professionnels qui interviennent à l'école, mais aussi des discours, donc des inspecteurs généraux et des textes. Donc, ce qui serait intéressant aussi, ça serait de voir comment en fait les élèves et les familles réagissent à ces assignations dans une certaine culture. C'est vrai que là, on voit bien dans vos interventions, sur différents terrains, comment en fait ces élèves et ces familles sont assignés en fait, hein. Le rôle et le poids d'une vision culturaliste. On a une dizaine de minutes pour la discussion. 5 minutes. Ah bon, d'accord. Donc je ne sais pas si vous avez des réactions, des questions par rapport à ces interventions. Géraldine, ici. Ou Françoise. Ouais. Non, c'est toi qui m'y prends.
Oui, moi j'aurais bien volontiers une question pour les deux Chloé. Peut-être que ça interpellera aussi Marie, je ne sais pas. Essayer de... Vous nous avez présenté des verbatims et des situations avec de la différenciation dans les deux situations que tu as présentées, Chloé. Mais en gros, quand même, on a une certaine cohérence de ce qui nous est montré du système de parole. Donc, on suppose quand même de penser aussi des agents scolaires. Et moi, je me demandais... si vous aviez assisté à des divergences entre agences scolaires sur les questions traitées, en particulier donc qui mobiliseraient des questions de respect à l'égard des gens. Et l'autre partie de ma question, elle va dans le même sens, c'est ces mots-là, ce sont des mots, et les gens parlent avec les catégories profanes qui sont les leurs, et éventuellement leurs idéologies qui ne les ont pas préparées à être subtiles, ils ne sont pas des sociologues après tout, subtils sur ces questions compliquées. Mais est-ce que dans les pratiques, par exemple dans la mobilisation des cultures des élèves ou des parents à l'école, la façon dont parler c'est une chose, qu'est-ce qu'on fait avec ? Est-ce qu'il y a des façons intéressantes de faire de la continuité, d'essayer de rejoindre les gens là où ils sont ? Enfin, je veux dire, des projets pédagogiques quelconques, là encore, qui tourneraient autour d'une forme de reconnaissance de la place de ces gens-là dans notre société à nous. Pratiquement, hein, en dehors des mots. Voilà, c'était ma question.
Alors, on va prendre une ou deux autres questions, parce qu'ensuite, on ne pourra plus reprendre de questions.
Merci. Nassira Ghanif, je vais faire bref, je suis là. Merci beaucoup pour ces trois interventions qui nous offrent un tableau à la fois cohérent et très contrasté aussi par certains aspects. Je voudrais juste soulever deux points rapidement. Le premier, par rapport à l'intervention de Chloé Lemaire, je voulais vous demander, en fait, est-ce que vous ne pensez pas que les deux situations que vous contrastez, justement, que vous posez aussi dans une forme assez binaire, est-ce qu'elles ne dessinent pas un espace au sein duquel on pourrait identifier toute une autre série de variations, on pourrait dire sur le thème de l'exotisation ou de... Voilà. Est-ce que finalement, ce que vous balisez là, c'est extrêmement intéressant si je peux me permettre de le suggérer, c'est-à-dire s'il y a toutes les autres dimensions intermédiaires qui seraient intéressantes à explorer et à documenter, à cartographier d'une certaine manière, entre cette espèce d'innocuité de l'altérité et puis cette menace de l'altérité que vous manifestez dans votre propos. Et puis je voulais demander à Marie Salin, vous évoquiez le fait que vous aviez été un peu sortie de votre zone de confort. Je voulais peut-être... aggraver la situation d'une certaine manière, et vous demandez, vous avez aussi travaillé sur, je crois, sur la Nouvelle-Calédonie, et je voulais vous demander, est-ce que de votre point de vue, vous dites qu'en fait, il y a quelque chose qui... Voilà, la Polynésie n'est pas en voie de décolonisation, par rapport au terrain que vous avez fait et aux études que vous avez faites sur la Nouvelle-Calédonie, qui, elle, est engagée dans un processus de décolonisation, quel qu'il soit, hein, on ne va pas y revenir. Est-ce que vous pourriez dire quels sont les points communs et est-ce qu'il y a des différences ou des points communs entre ces deux situations dans la mesure où dans un cas il y a une décolonisation en cours et dans l'autre il n'y en a pas ? Merci.
Merci. Une petite dernière question. Et puis ensuite on va devoir s'arrêter pour les questions pour laisser le temps aux intervenantes de répondre.
Bonjour. Merci pour votre intervention. J'avais une question pour Chloé Lemaire. Si j'ai bien compris, vous étiez là lorsque les situations que vous nous avez décrites sont arrivées. Moi, j'aurais aimé savoir quel était votre statut et votre position à ce moment-là et qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là. Enfin, quelles ont été vos actions ? Est-ce que vous êtes resté en retrait ? Merci.
Alors, mini dernière question.
On n'a plus le temps. Oui. Désolée.
Les réponses vont devoir être très courtes. Peut-être, Chloé, vous voulez commencer ?
Oui, alors, je vais commencer peut-être d'abord par la question de Nassira Ghanif Soulamas. En fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire que j'ai volontairement choisi deux situations qui étaient assez contrastées, même si j'ai souligné qu'en vérité, elles ne sont pas du tout antagonistes, en fait, hein, selon moi. Mais je suis d'accord que du coup, ça produit un effet de binarité qui n'est pas complètement juste. Voilà, c'était dans un but démonstratif, je reconnais. Et en effet, et c'est ça qui est intéressant, je ne voudrais pas laisser croire, par exemple, que les processus de folklorisation n'aboutissent pas parfois à des formes, par exemple, de sanctions sociales et administratives pour les élèves. C'est pas du tout le cas. Et là, il y a beaucoup de situations qui le montraient. Et je me souviens, par exemple, juste très très rapidement, d'une élève dont les interventions en classe avaient été comprises par les professeurs comme des manifestations de ce qui avait été qualifié par le professeur d'histoire d'une culture tribale, voilà. Et du coup, voilà, donc là, c'était présenté de manière... Le professeur en riait, puis en même temps, il était un petit peu inquiet. Donc là, on avait justement quelque chose qui était complètement intermédiaire, c'est-à-dire qu'il y avait une dimension pas nette, un peu menaçante, et puis en même temps, il y avait quand même... C'était tourné en dérision et présenté comme quand même globalement inoffensif parce que renvoyant à des pratiques, bon là, quasiment imaginaires, enfin voilà, qui étaient principalement le produit d'imagination quand même de l'enseignant. Et du coup, les conséquences pour l'élève, c'est par exemple que... La situation scolaire qu'elle vivait n'avait pas du tout été prise en charge, et a été prise en charge uniquement 2 ans plus tard. Donc oui, en effet, je ne veux pas laisser penser qu'il y a d'un côté la folklorisation et c'est inoffensif, et de l'autre la menace. Les situations sur le terrain sont bien plus complexes que ça. Et en fait, c'est ce que je disais, ces processus-là se renvoient l'un à l'autre en permanence. En fait. Voilà. Du coup, il y avait la question sur... je me souviens... Ah oui, la question qui fait mal un peu là sur la position. Ouais. Donc du coup, au moment où j'ai observé ces situations, j'étais moi-même enseignante dans cet établissement. J'y suis restée 6 ans et j'ai tenu un carnet de terrain pendant 5 ans. En fait, 2 ans pendant lesquels je faisais un master 2 à l'EHESS. Et donc à ce moment-là, moi, je suis arrivée au moment où la collègue d'histoire-géographie disait à l'élève de partir. Et ça demanderait beaucoup d'explications, mais bon, j'étais située en hauteur par rapport à la situation. Donc j'ai regardé. Ensuite, je suis intervenue dans la discussion avec l'élève et les enseignantes. En fait, sur le moment, en fait, c'est toujours très compliqué parce que quand on est dans une posture d'observation et qu'en même temps on participe, c'est très difficile de savoir ce qu'on... Enfin, c'est compliqué parce qu'il y a la tentation. Il y a le travail d'observation, c'est pas qu'une tentation, c'est un vrai travail. Et puis en même temps, il y a ma place en tant qu'enseignante dans l'établissement qui était en jeu et ce que moi je croyais qui était juste en fait. Donc du coup, j'ai essayé de trouver un compromis et qui a été notamment de par la suite d'essayer de faire revenir l'élève dans l'espace scolaire, mais ce qu'elle n'a jamais voulu faire en fait. Enfin, donc en fait, bon, pour ça, si vous voulez, on peut en parler après parce que il y a plusieurs épisodes et là, c'était le dernier épisode d'une situation très compliquée entre cet élève et l'institution scolaire. Après, est-ce que je suis vraiment satisfaite de la manière dont j'ai agi? C'est très compliqué, vous voyez. Quelle est l'éthique de métier qu'on met en jeu et puis quelle est l'éthique de recherche qu'on met en jeu? Enfin, vous voyez, il y a parfois des contradictions. Voilà.
Merci pour les réponses. Marie, je
sais pas si... Alors, très rapidement, la Nouvelle Académie, c'est intéressant parce qu'on a un processus de décolonisation actée avec un transfert de toutes les compétences non régaliennes. Jusque maintenant, en fait, depuis 20 ans, et puis un référendum d'autodétermination qui aura lieu le 4 novembre. Ce que montre, à mon avis, hein, de mon point de vue, la Nouvelle-Calédonie, c'est que pour se décoloniser, il faut avoir les moyens de sa souveraineté. Et on a une structure budgétaire qui est la même. L'État français finance 90% de la dépense d'éducation de la Nouvelle-Calédonie. Donc à partir de là, le transfert de compétences dans le primaire en 2000 et puis dans le secondaire en 2012, c'est accompagné, on va dire, d'un grand mimétisme institutionnel. Ils ont organisé une grande consultation, un grand débat sur l'école, à qui ils en ont confié l'organisation et la synthèse, à Claude Tello. Ça nous dit quelque chose. Et par ailleurs, quand ils ont transféré les compétences, on a continué à garder jusqu'au titre que porte le représentant de l'État, qui continue de s'appeler vice-recteur. Donc on a des changements qui sont, d'un point de vue curriculaire, d'un point de vue des personnels, etc., assez purement cosmétiques. Alors on parle de transfert de compétences techniques. Bon, clairement, il n'y a pas de plan B. Quand on parle de l'école, il n'y a pas de plan B. Et j'ai commencé à travailler dans d'autres domaines. Le problème, c'est quand on parle de la justice, apparemment, il n'y a pas de plan B non plus. Enfin, la décolonisation, on savait que c'était compliqué, mais là, dans le domaine scolaire, c'est particulièrement compliqué. Il ne suffit pas de l'acter dans le cadre d'un accord comme l'accord de Nouméa, en fait.
Très bien. Merci, Chloé.
Oui, très vite. Il y a effectivement des dissensions parfois sur la manière de considérer les parents et particulièrement les mères d'élèves. Je pense en particulier sur mon terrain d'enquête, en tout cas la coordinatrice du réseau REP, par exemple, elle est assez critique vis-à-vis de la manière dont font ses collègues. Donc il n'y a pas d'accord, enfin c'est pas forcément unifié.
Et il y a aussi des enseignants qui vraiment ne sont pas dans ce discours-là du tout, hein, je le redis. Donc, voilà. Et après, sur les projets qui sont intéressants, moi je trouve que c'est, dans les exemples que je connais, ce fait de faire venir les parents à l'école pour parler leur langue, je pense qu'il y a des choses qui sont très intéressantes comme ça, mais c'est pas toujours forcément bien, les parents ne le prennent pas forcément bien, ou n'apprécie pas forcément en fait qu'on les sollicite pour ça. Donc j'ai l'impression que c'est toujours plus compliqué que ça ne l'est sur le papier en fait, où c'est plus, ça semble intéressant sur le papier. Voilà.
Merci beaucoup, merci pour vos questions, pour vos interventions.